On arrive avec un texte qui s'appelle L'Avec schizophrénique, qu'on avait envie de lire parce que c'est pas un texte qui est souvent lu, partagé. Et donc c'est un texte de Daniel Rouleau, qui est décédé maintenant, mais qui était psychiatre à La Borde, à la clinique de La Borde, qui est un des berceaux de la psychothérapie institutionnelle. Et en fait, le collectif à voix haute, on essaye de lire des extraits, des assemblages, des montages de textes sur la psychothérapie institutionnelle, mais écrits par des femmes, parce que ceux qu'on connaît le plus souvent sont écrits par des hommes. Et donc on essaye d'aller chercher ces textes moins connus. Enfin, on va les chercher, on les découvre ensemble, et puis ensuite on fait des sélections des passages qu'on aime et qui peuvent parler un peu à tout le monde. Et voilà, là ça parle. Donc c'est un tout petit livre qui s'appelle L'Avec schizophrénique, qui a été édité chez Hermann en quelle année on sait ? 2014, je crois, c'est quelques années avant qu'elle décède à La Borde. Et donc, on vous lit le chapitre 2, qui s'appelle « Contexte ». Et ensuite, donc c'est un bout du chapitre 2, « Contexte », et ensuite le chapitre 3, juste après, qui parle du groupe du samedi. Hélène Chéniaud. De toute façon, dans un hôpital psychiatrique, comme dans bien des structures plus légères, s'instaure spontanément une vie sociale qui s'inspire de la société de l'époque, voire la caricature. Un malade psychotique, en particulier un schizophrène, institue, où qu'il soit, un mode relationnel qui tend à reproduire le système familial.
Ces réflexions d'Hélène Chéniaud nous incitent à penser qu'une ambiance non travaillée sera nocive, favorisant même une culture de la pulsion de mort. Si l'on y ajoute la hiérarchie pesante, qui empêche le personnel soignant d'avoir des initiatives personnelles auprès de tel ou tel patient, l'ambiance vire à celle d'un univers concentrationnaire. Et les derniers textes officiels sur la dangerosité des malades mentaux empirent encore la situation. Dans certains hôpitaux, les infirmiers et infirmières sont incités à prendre des cours de self-défense. Pour ne pas courir à la catastrophe, il est nécessaire de travailler d'abord sur l'ambiance. Ce que Jean Houry, après Tosqueyès, nomme « faire de l'asepsie ». « On ne fait pas une opération chirurgicale sur un tas de fumier », dit-il. Ce travail passe par la lutte contre la hiérarchie, les cloisonnements, les préjugés et les « ça va de soi », l'expression est de Houry, du côté du personnel soignant, et par le travail institutionnel avec les patients pour lutter contre ce qu'Hélène Chéniaud souligne. Spontanément, le schizophrène institue, dit-elle, ce qui peut être vecteur d'identification hystérique, source de production de perversion et catalyseur des émergences des transgressions. Au club thérapeutique du côté des patients, du côté du personnel, une association culturelle doit donc y être associée. Voici, écrit par un collectif de patients et de quelques moniteurs, le texte préparatoire de l'Assemblée Générale du Club.
Première séance, le 12 mars 2010. Depuis quelques semaines, plane dans l'air labordien l'envie d'une Assemblée Générale du Club. Il y a une multitude de thèmes et des questions dont on pourrait débattre. Un nombre de plus en plus important d'ateliers, n'est-ce pas parfois au détriment des activités de base qui font la trame du quotidien ? Les services comme le ménage, le service de table, l'aménagement, le tabac, le bar, la vaisselle ?
Une autre question serait la constitution d'un bureau du secrétariat, c'est-à-dire une répartition nominative des fonctions.
Le rapport avec le comité hospitalier et les différentes instances de la clinique ? Par exemple, autour des travaux, comité de gestion, bureau administratif, le devenir du premier étage du château.
La question des lieux pour abriter les ateliers tels que la peinture et la musique, pour n'en nommer que deux.
La construction concrète des cartels avec leurs délégués. Puis la nécessité d'une assemblée générale plus classique, annuelle, bilan financier, bilan moral.
Le travail de Batista, une entreprise qui assure le gros du ménage, l'essivage des chambres, était auparavant fait par les habitants. Est-ce un gain de temps ou plutôt un glissement dans la fonction club au sein du SAM?
Qu'en est-il de la culture du club thérapeutique dans les SAM, dans une infirmerie, dans les salles à manger?
Autant de questions qui devraient nous interpeller tous, qu'on soit jardinier, médecin, pensionnaire, cuisinier, administratif, secrétaire, bénévole ou, comme on dit, moniteur, musicien, peintre, acteur, danseur, lecteur, écrivain, journaliste, correctrice, beau parleur, haut parleur, membre de la horde poulaïesque.
Le club, rappelons-le, dans son essence même, traverse toute appartenance statutaire et sert à briser l'imaginaire aliénant qui en découle.
Chaque service rendu à la clinique est en rapport avec la subvention attribuée au club par la clinique, à travers le comité hospitalier. Bien que nécessaire, est-il suffisant de rappeler ce contrat fondateur? Quoi de plus? Comment ensemble donner du cœur à l'ouvrage, y mettre du style, du singulier? S'y engager avec passion et envie, s'y risquer un peu, s'y exposer parfois, oser apprendre. Renouer donc constamment avec l'âme et la culture du club. Cela peut faire en sorte qu'un geste simple, parfois pénible, comme balayer ou débarrasser, puisse prendre du sens et devenir thérapeutique. Ces gestes sont de l'ordre du politique. Ils nous engagent dans notre façon de rendre notre monde habitable. Autrement dit, on peut faire une tâche pour avoir la paix. On rend bien service et on a la conscience tranquille, pourquoi pas, pour être occupé. Pas mal quand on s'ennuie. C'est mieux que de rester couché toute la journée. Pour plaire à quelqu'un, pour gagner sa croûte, ça compte. Or, comment cela pourrait se transformer dans une véritable appropriation de soins quotidiens partagés? Ainsi, on peut y prendre plaisir et s'en porter pas plus mal. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Après pas mal de discussions ces derniers jours au secrétariat du club et ailleurs, on vous propose de dessiner quelques lignes qui traversent le secrétariat du club, de partir de ce lieu pour débattre autour de la fonction club. Si on peut tranquillement se raconter les uns les autres ce qui s'y passe, ce qui ne s'y passe pas encore, et ce qui pourrait, devrait s'y passer, ce qui ne se risque pas, qui ne risque pas de s'y passer, et on en passe, sans omettre les dysfonctionnements. Il ponctue un style de fonctionnement, ni s'y enfoncer et produire un débat stérile et contre-productif. Place aux passions joyeuses. Signé N, M, C et J.
Ce texte est une bonne description, je crois, de ce qu'est le club. Encore faut-il que les moniteurs acceptent de troquer leur statut contre une fonction soignante généralisée, qu'ils la partagent avec les patients attentifs les uns aux autres, prêts à aider quelqu'un en difficulté. Par exemple, ce sont des pensionnaires qui accueillent tout visiteur pour faire visiter la clinique et en expliquer le fonctionnement, que ce soit en visite de préadmission, l'arrivée d'un stagiaire, d'un jeune moniteur ou de tout médecin ou infirmier qui désire visiter la clinique, et même les accréditeurs. Ces patients volontaires sont appelés « poissons pilotes ». Il y a des tranches de vie encore plus subtiles. Un patient, alcoolique, fumeur de haschich, mais psychotique, était sur le point de se faire renvoyer par le médecin directeur. Il a demandé un sursis d'une semaine à condition de ne pas rester seul, demandant la présence constante d'une personne. Les patients et quelques moniteurs se sont relayés, véritables anges gardiens. Il en a été métamorphosé. Après 8 jours, il est parti dans sa famille pour 15 jours. Il n'est pas revenu, car tout se passe bien avec ses parents, et ceci depuis 3 ans et demi. Il envoie régulièrement de ses nouvelles, sans oublier chaque fois de remercier ses anges gardiens. Nous avons donc inventé une technique surnommée « technique des anges gardiens ». C'est en partie grâce aux autres patients, devenus ses anges gardiens, que ce patient a pu sortir d'une situation apparemment sans issue. Et puis, pour ceux vraiment paumés et qui ne peuvent s'exprimer dans le colloque singulier, cher à Lucien Bonafé, il y a des petits groupes de parole, de 4 ou 5 personnes, patients et moniteurs, cooptés le plus souvent par le patient, à moins qu'il ne puisse pas le faire, Dans ce cas, ce sont ses copains, ceux qui ont une affinité avec lui ou du dévouement, qui organisent eux-mêmes le groupe de parole une fois par semaine. Quand un patient est vraiment inquiétant, c'est au cours d'une réunion plus large, appelée constellation, que l'on parle du patient, des contacts que les participants ont avec lui. On reprend toute son histoire. Jean Houry appelle les constellations techniques de Stanton et Schwartz généralisées. Il me faut m'expliquer. Dans un texte écrit par Racamier en 1957, est évoquée la clinique de Chestnut Lodge aux USA, dans laquelle il y avait un patient suivi par deux psychanalystes. Plus ses thérapeutes le voyaient, plus le patient allait mal. Les deux psychanalystes ne se parlaient pas. Neutralité oblige. Deux sociologues, Stanton et Schwartz, ont incité les deux psychanalystes à se rencontrer. Voyez-vous, prenez un café, parlez de la pluie et du beau temps, engueulez-vous, parlez de ce que vous voulez, mais parlez-vous. Ce que les deux thérapeutes ont fini par faire. Miracle, une semaine après, le patient allait bien mieux. Nous avons fait cette expérience de constellation à la Borde. Un patient psychopathe, pervers, fugueur, suicidaire, qui ne se laissait pas approcher, qui puait à force de garder un quignon de pain et du fromage sous son aisselle, personne ne savait plus que faire. Alors, au cours d'une réunion de constellation, à bâton rompu, un peu à la Kurt Lehrin, sympathie, antipathie, il a été demandé « Qui ne le supporte pas ? Qui l'aime bien ? Et même, qui accepterait de partir en vacances avec lui ?» 3 heures de réunion. Le lendemain, le patient allait bien mieux. « Tu as remué le contre-transfert institutionnel », a répondu Toscaïès, qui avait proposé ce terme de constellation à Jean Houry, qui lui racontait cette histoire. Les participants à cette réunion de constellation, à l'époque l'ensemble du personnel, ne regardaient-ils pas le lendemain le patient d'une autre façon ? Un sourire, un clin d'œil, sans doute tous ces facteurs non évaluables avaient-ils agi ? Il y a aussi les réunions de chambre. Quand un patient fuit le thérapeute, on va le voir à domicile, dans sa chambre. Chaque lundi à 14h, je participe à la réunion de la chambre 2 du pavillon dit Les Bois. J'appelle cette chambre le boulevard des allongés. Tous couchés, toute la journée, sauf Pierre, dont j'ai déjà parlé, qui avait cette tendance clinophilique. Mais comme Pierre est mon premier client du matin, je veille à lui, à son emploi du temps, de toute la journée. Les intervenants du lundi dans cette chambre ne sont pas les bienvenus. Ça se repère tout de suite. Pas de bonjour. Deux patients sortent fumer une cigarette l'un après l'autre et ne reviennent pas. Des projets de rénovation de la chambre aggravent les choses. À peine jette-t-il un coup d'œil sur les échantillons de peinture proposés. Pas un seul d'entre eux n'aidera l'équipe partenaire de rénovation.
Revenons à l'ambiance. La légende veut que Toscaïès ait traversé les Pyrénées pour fuir le franquisme, qu'il avait condamné à mort avec, sous un bras, une série d'articles d'Hermann Simon de 1927 sur le traitement de l'ambiance à l'hôpital de Gütersloh, et sous l'autre, la thèse de Lacan de 1932. Simon insiste sur le fait que l'hôpital, comme l'école et toute autre collectivité, est malade. Il préconise de soigner l'hôpital, ses hiérarchies, ses cloisonnements, avant de prétendre soigner les patients. Ce que Toscaïès appelait l'asepsie. Les symptômes secondaires étant en grande partie réactionnels, il faut éviter que ne se surajoutent aux troubles fondamentaux des symptômes liés aux carences du milieu institutionnel. Ce que Houry appelle, reprenant un terme de Birnbaum, qu'il détourne un peu en son sens premier, la pathoplastie. L'ambiance, c'est d'abord responsabiliser les malades, respecter la liberté de circulation, pour aller d'un point à un autre, précise Cécile. Faciliter les rencontres, les échanges de toutes sortes. Daumaison et Coquelin, en 1952, créant le terme de psychothérapie institutionnelle, mettaient en évidence la nécessité de l'analyse sociologique de l'institution soignante, faisant de cette analyse une condition indispensable et le préalable d'un vrai travail thérapeutique. Ils avaient également, dans leur exposé, soulevé ainsi implicitement la question du transfert. Écoutons encore Hélène Chéniaud.
Toscaïès a écrit que la psychothérapie institutionnelle n'existe pas. Ce qui est important, c'est le mouvement de recherche ainsi représenté. C'est aussi la notion qui l'accompagne. du caractère unique et non reproductible de toute réalisation, s'il en est, de psychothérapie institutionnelle. Réalisation par définition jamais achevée.
Le mot institution est souvent confondu avec celui d'établissement. Catastrophe.
Dans ce cas, cette institution, il faut la détruire. Ce propos est tenu par ceux-là même qui reconnaissent ou qui découvrent que le schizophrène institue un mode relationnel. L'institution en question est donc bien un objet totalitaire, une création étrangère au schizophrène, indépendante d'eux, existant envers et contre le malade. Ce qui est contradictoire avec la notion que le schizophrène institue où qu'il soit. En présence d'une telle division, institution d'un côté, schizophrène de l'autre, il est apparemment mieux reçu de dire « il faut détruire l'institution » que de dire « il faut détruire le schizophrène ». Qu'on prenne garde cependant, d'un côté comme de l'autre, la destruction est à l'œuvre.
Cette confusion entre établissement et institution est le piège dans lequel sont tombés les antipsychiatres. Une nouvelle antipsychiatrie fait un retour en force aujourd'hui, avec le management, les évaluations, les mises en pyjama systématiques, la multiplication des cellules, etc. Toute mesure qui annihile l'effort collectif de soins de la psychothérapie institutionnelle.
La vie transcende le cadre, dit encore Hélène Chéniaud.
Un certain nombre de principes de base se dégagent.
Le caractère provisoire de ce qu'on institue, le souci de mettre fin à une telle institution si elle se dénature ou avant qu'elle ne se dénature. Troisièmement, l'analyse permanente du fonctionnement institutionnel.
Jean Houry ira encore plus loin en parlant d'analyse institutionnelle et de stratégie analytique. Je n'ai fait que décrire le contexte, l'ambiance, la sympathie, le respect absolu de l'autre, dans lequel ont été récoltés les fragments d'entretien duel qui précèdent ce chapitre. La qualité du contexte est une condition nécessaire pour traiter les patients, y compris en situation duel. Le filet institutionnel est toujours là. Et si une séance psychothérapeutique bouscule un peu le patient, je sais que d'autres, patients et moniteurs, seront là pour lui.
Chapitre 3, l'AVEC schizophrénique dans le groupe du samedi. Depuis une quinzaine d'années, l'association culturelle de la Borde organise un stage FPC, formation permanente continue, la deuxième semaine du mois de mai. Dès le troisième stage, Cécile et Mireille ont violemment protesté. Il n'y a pas que les médecins et les moniteurs qui peuvent apprendre quelque chose aux stagiaires. Nous, les patients, nous avons aussi des choses à leur communiquer. D'accord, ai-je répondu. Mais il faut préparer cela. C'est ainsi que je me retrouve chaque samedi de 14h30 à 17h avec une dizaine de psychotiques graves, dont une majorité de schizophrènes, pour préparer les interventions de ce groupe au stage. On commence le groupe en septembre. J'ai dû batailler dur avec Cécile pour avoir quelques mois de vacances. Elle voulait que le groupe dure toute l'année. Parmi les moniteurs contactés pour m'épauler, bien peu se sentaient partants. Et je suis restée seule membre du personnel. Il est vrai que ce groupe est épuisant. Ce groupe s'est donné des règles de base. Ce sont les règles de base du fonctionnement de la pédagogie institutionnelle, du conseil. Tout nouveau membre doit être accepté à l'unanimité. C'était aussi le cas des moniteurs sollicités. On ne se moque pas de ce que dit un membre du groupe. On ne coupe pas la parole à celui qui parle. J'ajouterai que si les deux premières règles sont respectées sans difficulté, la troisième ne l'est guère en raison des pathologies. Si on ne dit pas immédiatement ce qui vient à l'esprit, l'idée risque de s'envoler, ou bien la parole se fait trop pressante et l'on ne peut la retenir. À moins que ce soit parce que l'autre n'existe pas comme tel. Mais la plus grande difficulté réside dans le fait qu'il n'est pas possible de désigner un président de séance, du moins pas encore. Le groupe repose sur ce que Bion, dans son livre « Recherche sur les petits groupes », appelle « hypothèse de base dépendance ». Les participants ont tendance, en effet, à s'adresser à moi et je dois sans arrêt leur rappeler qu'ils parlent à l'ensemble du groupe. Les premiers mois sont paroles libres. On y parle de tout. Thèmes les plus fréquents, les mères, c'est à qui on dira les pires méchancetés, la mort, l'angoisse, Puis, vers le mois de mars, les discussions se resserrent autour du thème du stage, hypothèse de travail de bio. Ensuite, vers la fin avril, chacun écrit sur une ou plusieurs feuilles un petit texte qui sera lu au stage à haute voix par son auteur. Ces écrits ne portent pas toujours sur le thème du stage. Certains écrivent sur le groupe, d'autres sur eux-mêmes, ce qu'ils perçoivent d'eux-mêmes, ou bien la manière dont ils se sentent perçus. Tel ce très beau texte écrit par François il y a 3 ans, bien loin du thème du stage de l'année. C'était une sorte de présentation de lui-même.
Laurent Houtan. C'était au Muséum d'Histoire Naturelle, dans une cage au barreau de fer forgé. Il se déplaçait à pas très lents, tout en mâchant du papier. Il était roux orangé, le bel orang-outan, calme, posé, résigné à vivre le moins possible. Et puis, il était peut-être heureux d'exister pour lui-même. Le bel animal, que de gentillesse, que d'humour dans la tristesse. L'air mélancolique et provocateur. Le savoir-vivre dans la sécurité, peut-être. Que dire d'autre ? C'était l'être le plus doux qui ait jamais existé. Quelle noble nature ! Quel désir de ne pas se faire oublier ! Enfin bon, c'était déjà un homme, ou presque.
Ce texte, François n'aurait pu l'écrire tout seul dans son coin. Il fallait un tissu de paroles qui fasse feuille d'assertion, comme le dit Peirce, et qu'il puisse se mettre, avec le soutien des participants et participantes à ce groupe, en position de scribe, l'interprétant étant ses lecteurs. L'interprétant n'est pas celui qui interprète comme un psychanalyste. Il appartient à la nécessaire triade, pour le sémioticien Peirce, reprise par Balla, feuille d'assertion, scribe, interprétant. Tissu, éclat de parole, le groupe devient feuille d'assertion et support. Vion prétend qu'un groupe est toujours schizophrène. Alors un groupe de schizophrènes, c'est encore une autre chose. Je dois rester présidente de séance, interrompre ceux qui digressent et s'approprient trop la parole, interpeller ceux qui sont murés dans leur silence, ceux qui sont ailleurs. C'est un avec très particulier qui règne dans ce groupe. Les participants n'y sont guère avec les autres, mais ce groupe fait feuille d'assertion, bain de parole. On peut parfois rebondir sur une phrase énoncée. C'est comme avec moi, c'est comme pour moi. On peut y raconter des choses. Je ne prétendrai pas que cette réunion du samedi soit un groupe de psychothérapie au sens habituel du terme, mais les discours énoncés dans cette ambiance particulière, détendue, hors du face-à-face dans lequel on doit trouver quelque chose à dire à son thérapeute, comptent beaucoup. On ne peut pas parler d'un être avec les autres, chacun est plongé dans son mutisme, son délire ou sa logorée, mais il y a des moments de réveil, de tel ou tel qui raconte une anecdote, ou se met à parler de quelque chose qui le préoccupe. L'avec schizophrénique, dans les entretiens, j'en ai parlé précédemment, mais je dirais que dans ce groupe, l'avec schizophrénique se dégrade encore. Même si certains s'affairent à préparer leur thé pour tous, font une place autour de la grande table pour les retardataires, une chose m'apparaît certaine. Il est très difficile pour un schizophrène d'être avec le groupe dans son entier. C'est cependant un avec schizophrénique de groupe. Cependant, ils y viennent régulièrement sans que je doive battre le rappel le samedi matin. C'est donc qu'ils y trouvent quelque chose. Mais quoi ? Une ambiance particulière sans doute. Une reconnaissance de soi-même aussi, malgré les « oui, mais cette année je n'écrirai pas ». Et pourtant, ils écrivent leur page, même s'ils doivent me la dicter, à moi ou à un autre membre du groupe. Il y a aussi les électrons libres, qui viennent au groupe très peu ou pas du tout, mais qui insistent pour présenter un texte pour le stage.
Le groupe du samedi, comme dit l'un de ses membres, est avant tout un groupe de portage. Je suis la garante, fonction phorique, dit Pierre de Lyon, portage qui tend vers la fonction métaphorique. Si je dois m'absenter un samedi, les membres viennent, mais partent rapidement. Isabelle, pourtant timide, lors d'un groupe où je suis absente, se lève de sa chaise en criant « Il me faut un psychologue !» Je dois dire que la quasi-totalité des membres du groupe
est aussi en psychothérapie de duel avec moi. C'est sans doute pour cela qu'ils s'adressent à moi, même si l'ambiance et leurs discours sont complètement différents de ceux des entretiens de duel. C'est un lieu de résonance, dit Nawel. De résonance et de résonance, dit Cécile. Qui porte qui ? Les membres du groupe ? Quant à moi, ma position est bien difficile à définir. Leader du groupe d'indépendance ? Pas seulement. C'est un groupe contenant. Et je ne cache pas la forte appréhension que j'éprouve lorsque je dois y aller. Je vais affronter, en même temps, l'angoisse et l'identification projective de tous les membres du groupe. Ils en sortent contents, en général. Moi, cela me plonge dans des angoisses archaïques. Même si le groupe se passe bien, ce qui est le cas habituellement, j'en sors angoissée, épuisée, disloquée, vidée comme un poulet, comme je l'ai souvent entendu dire par Gisela Pankow. Cécile dit que c'est un lieu de miroir, un collectif de miroirs. C'est une fonction collective de vie et de reconnaissance psychique. Reconnaissance de soi-même et de l'autre qui parle, et dont la parole est entendue par le groupe. On tend vers quelque chose du symbolique. Chacun approche du langage. Ce groupe est devenu un rituel. Le même jour, le même lieu, les mêmes participants. Il y a une sorte de contrat. L'exposé au stage n'est plus que prétexte de cette réunion. Ce qui compte, ce sont, entre les membres du groupe, des rapports à la fois partiels et complémentaires. Mon travail, c'est de fabriquer des ponts entre ces personnes esselées. Pour tous, c'est un opérateur logique qui tient lieu de par excitation. Il y a de la connivence dans les séances du groupe entre ses membres, même s'ils se parlent peu en dehors. Mon questionnement, c'est la différence existant entre la parole dans les entretiens duels et la parole dans le groupe. Ce qui me frappe, c'est qu'il puisse y avoir quand même un certain respect de la parole de l'autre.
Ce groupe existe depuis 10 ans. Il y a peu de rivalité, peu de jalousie, sauf quand par hasard s'y glisse une hystérique. Ce groupe a tenu dans la durée et tiendra encore longtemps, non par stéréotypie. Il est devenu vital pour les participants, incorporé dans leur existence souffrante. C'est une bouffée d'air, une greffe d'ouvert, un lieu de détente comme une rencontre entre amis, compagnons de pensée. La difficulté se manifeste dans le passage de la parole libre à l'écriture de la page, qui est de plus en plus devenue prétexte. Là, on passe de la respiration au grand air à une sorte de pénitence, avec tout ce qu'une page écrite rappelle, l'école, les devoirs à faire. Mais chacun finit par écrire sa page. Et moi, il ne me reste plus qu'à passer de l'un à l'autre des membres pour aider à écrire cette maudite page, en m'adaptant à chacun, à sa personnalité, à ce qu'il veut dire au stage, ou à ce qu'il veut dire tout simplement. La difficulté est, ici, de slalomer entre banalité et exhibition dans l'écriture de ces textes.
Merci pour l'invitation.
Ben, merci à vous d'être venu surtout. Vous m'entendez pas, mais c'est normal. Merci. Donc, c'était le collectif à voix haute qui lit des textes autour de la psychanalyse écrits par des femmes. Plutôt, c'est ça. Vous l'avez dit au début, vous l'avez dit mieux que moi. Et donc là, c'était l'avec schizophrénique de
Daniel Rouleau. Ah voilà, on m'entend maintenant. De Daniel Rouleau. Et voilà. Et est-ce que vous avez une prochaine lecture de prévue ? Est-ce qu'il y a une prochaine lecture de prévue ? Il y aura sans doute à la rentrée, en septembre. Tu penses à autre chose, Sybille ? C'est ça ? À Tours, ouais, voilà. On va aller à Tours en septembre pour lire Agnès Masson. Agnès Masson, c'était, elle était directrice à l'hôpital de Saint-Alban avant l'arrivée de Toscaïès.
Ah oui, c'est vrai.
et elle était très engagée politiquement. Voilà, elle a fait partie de elle a dirigé aussi la revue socialiste, la revue des femmes socialistes. Voilà, on prépare ça pour septembre, mais il y aura peut-être sans doute des trucs d'ici là, on espère.
En tout cas, merci, c'était super. Moi, ça m'a donné envie de lire ce livre.
Je te le prête.